conférence. Mais là, elle sera mise d'ici peu, comme celle-ci d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, c'est la dernière conférence de notre année, qui se situe un peu dans le thème de ce que nous avons fait avec Philippe toute cette année. Vous vous souvenez, on avait évoqué Samson et Dalila, et puis Jean-Baptiste et Salomé, ou Hérodiade. On avait évoqué la femme adultère, et puis Bethsabée, bien sûr, oui, Bethsabée, je sais, David et Bethsabée, la femme adultère, le psaume 51, et aujourd'hui, donc la pécheresse aimante et pardonnée, c'est un peu dans le même style. C'est un récit assez court que je vais lire tout de suite, et puis après je vous donnerai quelques éléments de contexte, et bien sûr, je proposerai un commentaire de ce passage. Or, l'un des pharisiens lui demandait de manger avec lui, et étant entré dans la maison du pharisien, il s'étendit, bien sûr, c'est Jésus. Et voici une femme qui était dans la ville, une pécheresse, ayant appris qu'il s'était étendu dans la maison d'un pharisien, ayant apporté avec soin un vase d'albâtre plein de parfum, se tenant derrière à ses pieds en pleurant. De ses larmes, elle commença à mouiller ses pieds, et des cheveux de sa tête, elle essuyait et baisait longuement ses pieds et les oignait de parfum. Ce que voyant le pharisien qui l'avait invité, se dit en lui-même, « Celui-là, s'il était prophète, saurait qui et de quelle sorte est la femme qui le touche, qu'elle est une pécheresse. » Pour répondre, Jésus lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Il dit, « Maître, parle. » Deux débiteurs avaient le même créancier, l'un devait 500 deniers, l'autre, tandis que l'autre, 50. Comme il n'avait pas de quoi rendre, à tous deux, il fit grâce. Qui d'entre eux l'aimera plus ? Pour répondre, Simon dit, « Je suppose, celui à qui il fit grâce de plus. » Jésus lui dit, celui-ci lui dit, tu as répondu droitement, tu as jugé droitement. Et s'étant tourné vers la femme, il disait à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, d'eau sur les pieds, tu ne m'as pas donné, elle de larmes a mouillé mes pieds et de ses cheveux les a essuyés. De baiser, tu ne m'as pas donné, elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de baiser longuement mes pieds. D'huile, ma tête, tu n'as pas oint, elle de parfum a oint mes pieds. À cause de cela, je te dis, lui sont remis ses péchés. Il y en a beaucoup, parce qu'elle a aimé beaucoup. Mais à qui on remet peu, il aime peu. Et à elle, il dit, tes péchés sont remis. Les convives commencèrent à dire en eux-mêmes, qui est celui-là qui même les péchés remet ? Or, il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voilà. C'est une traduction un peu littérale dont je vous expliquerai les raisons après le contexte dans lequel je vais situer ce passage. Donc nous sommes, c'est un passage de l'évangile de Luc, je l'ai indiqué tout en haut, c'est au chapitre 7. Vous connaissez, enfin je vous rappelle le plan de l'évangile de Luc, c'est un évangile qui comporte d'abord des chapitres sur l'enfance de Jésus, les deux premiers chapitres, puis vous avez ce passage de relais entre Jean le Baptiste et Jésus, les chapitres 3 à 4, enfin jusqu'au verset 13 du chapitre 4. Et puis vous avez cette grande section du ministère en Galilée, de 4,14 à 9,50, autrement dit, l'épisode se situe précisément dans cette partie, le ministère de Jésus en Galilée. Chez Saint-Luc, vous avez une très longue montée à Jérusalem, du chapitre 9,51 jusqu'à 19,27. Et puis bien sûr, des chapitres de Jésus à Jérusalem, son ministère, de 19,28 à 21,38, et à partir du chapitre 22 jusqu'à la fin, c'est la passion et la résurrection. Donc la section qui nous intéresse est celle du ministère en Galilée, qui s'ouvre un peu de manière solennelle chez Saint-Luc, par un grand portail, un grand porche d'entrée. Vous savez, c'est ce moment où Jésus s'en va à Nazareth, vient à Nazareth, et il lui est demandé le jour du sabbat de commenter, ou en tout cas de lire et de commenter, un texte du prophète Isaïe, le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, etc. Et Jésus, vous le savez, va faire un commentaire lapidaire. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit à vos oreilles. Donc, bien sûr, tous les prêtres et les chapelets doivent s'inspirer pour ne pas faire de homélie trop longue. Voilà. Alors, c'est en même temps que Jésus fait ce commentaire et que la réaction immédiate de l'Assemblée est plutôt positive. Vous savez qu'assez rapidement, Jésus va provoquer l'Assemblée, en particulier en citant deux prophètes, le prophète Élie et Élisée, en soulignant que l'un est allé vers la veuve de Sarepta, tandis que l'autre est allé, enfin, guéri ou de purifier de sa lèpre un lépreux syrien, enfin araméen, Naaman, conduisant bien sûr son assemblée, qui était jusque-là favorable, à se retourner contre lui. Mais Jésus interprétant ce retournement qui lui est pourtant négatif, comme un signe paradoxal de son activité et de sa mission prophétique. Un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. Alors, si je cite ça un peu longuement, c'est d'abord parce que c'est une caractéristique de Luc, et parce que, vous voyez, dans ce passage, Jésus revendique une dimension prophétique, ou une dimension prophétique à sa mission, et ici, c'est bien, enfin, qui sera ensuite affirmé par d'autres, on va le voir, mais qui est ici indiqué, Simon le pharisien. N'est dit à son propos, s'il était prophète, il saurait, voilà, que cette femme est une pécheresse. Alors, il y a un contexte plus immédiat à cet épisode, au chapitre 7. Je passe en revue quelques éléments du chapitre 7 dont je vais relever des points de contact avec notre passage de ce soir. Par exemple, le chapitre 7 commence par la guérison du serviteur du centurion. Voilà, hein, vous savez, qui vient vers Jésus. Il n'habite pas à l'endroit où se trouve Jésus, à Capharnaüm, et puis il va lui demander d'intervenir pour son serviteur qui est malade, son esclave plus exactement, pour reprendre les textes, le terme grec qui est utilisé, mais qu'il considère aussi comme son enfant. Voilà. Et Jésus, alors que Jésus veut le suivre, le centurion l'arrête en disant: « Je n'ai pas besoin que tu me suives. Voilà, une parole de toi me suffit. Voilà. » Prenant exemple de sa propre expérience, il suffit qu'il dise à un serviteur: va, et celui-ci s'en va, et un autre vient, et il vient. Et Jésus de s'exclamer: jamais en Israël je n'ai vu une telle foi. Voilà. Alors, si je le relève, c'est précisément à cause du terme de foi. Vous trouverez à la fin, nous avons trouvé à la fin de ce passage, vous voyez, cette affirmation de Jésus: ta foi t'a sauvé. Voilà. Donc, premier élément. Deuxième élément, peut-être plus intéressant, parce qu'il est question d'une femme. C'est juste après, au verset 11 à 17 du chapitre 7, il s'agit de la résurrection du fils unique d'une veuve, la veuve de Naïm, et en particulier de la réaction de la foule qui a assisté à la chose et qui s'exclame: un grand prophète s'est levé parmi nous. Là encore, on souligne la dimension prophétique, vous voyez, qui n'est pas simplement revendiquée par Jésus, mais qui est en quelque sorte lui reconnue par comparaison avec des prophètes qui ont agi de la même manière. Par exemple, Élie, qui a ressuscité le fils unique de la veuve de Sarepta. Et d'ailleurs, Saint Luc va s'inspirer de ce passage, pour établir un lien entre Jésus et Élie, ce qui est un peu une caractéristique de Saint Luc d'ailleurs, à la différence des autres évangiles, qui vont plutôt faire de Jean-Baptiste en quelque sorte l'écho, ou le. Voilà, celui qui correspond à Élie dans le Nouveau Testament. Luc, au contraire, utilisera le ministère d'Élie pour parler de Jésus. Donc, il y a la dimension, il soulignera plus particulièrement, plus fort que les autres, la dimension prophétique de l'action de Jésus. En même temps, ça se passe à Naïm, et pour ceux qui sont allés en Israël, vous savez que Naïm n'est pas très loin de Shunem. Il suffit de contourner la montagne, la colline de Morée. Et Shunem, c'est un autre passage où Élisée, cette fois-ci, au chapitre 4 du deuxième livre des Rois, ressuscite le fils d'une Shunammite. Voilà. Donc vous avez ce double écho prophétique qui va permettre à l'assemblée ou à la foule qui accompagne cette femme, alors qu'elle est en train de porter son fils unique en terre, qui explique, là, qui rend compte de la réaction de cette foule: un grand prophète s'est levé parmi nous. Voilà. Ça, c'est jusqu'au verset 17. Donc, premier élément, la guérison du serviteur du centurion, la foi soulignée. Ensuite, la résurrection du fils de la veuve de Naïm, un grand prophète. Vous avez ensuite, des versets 18 à 35, donc juste avant notre passage, le témoignage que Jésus rend à Jean-Baptiste. Voilà. Je vous dis, un prophète est plus qu'un prophète. Voilà, à nouveau. Et en même temps, en contrepoint, vous voyez, la critique assez sévère qu'il adresse aux autorités, pharisiens en particulier, de ne pas avoir accueilli ce témoignage. Voilà. À la différence, bien sûr, des publicains et des pécheurs. On a, vous voyez, quelque chose qui prépare en quelque sorte à notre rencontre. Jésus est une pécheresse et Jésus, bien sûr, un pharisien. Voilà, donc ensuite, vous avez notre passage. Et pour terminer, vous avez un petit sommaire au début du chapitre 8. hein, qui indique un certain nombre de disciples de Jésus, pas simplement les 12, mais beaucoup de femmes, voilà, qui suivaient Jésus, Marie, la Magdalène, Jeanne, femme de Chouza, Suzanne, plusieurs autres qui les assistaient de leur bien. Voilà, hein, c'est une des caractéristiques aussi de l'évangile de Luc, d'être plus attentif que les autres à la présence des femmes parmi les disciples de Jésus. Voilà, ça c'était pour un rapide parcours, vous voyez, une rapide présentation du contexte. Maintenant, si je reviens au texte lui-même que je vous ai proposé, d'un point de vue de critique textuelle, il n'y a pas de difficulté. Voilà, il n'y en a quasiment aucune. Il y a deux points peut-être qui méritent encore et encore d'être soulignés. Le premier, c'est au verset 39, hein, la phrase de Simon le pharisien, c'est « Celui-là, s'il était prophète, saurait qui et de quelle sorte est la femme qu'il touche et qu'elle est une pécheresse. » Certains manuscrits portent « Celui-là, s'il était le prophète. Hein, » Le prophète, sans doute, c'est un rapport forcé, en quelque sorte, que des scribes. C'est certains manuscrits, hein, pas très importants. Mais certains manuscrits ont voulu sans doute forcer le rapport avec cet oracle de Moïse, cette prophétie de Moïse, hein, qui annonce au chapitre 18 du Deutéronome le fait que Dieu va susciter en chaque génération, mais d'abord susciter un prophète comme moi. Voilà, Moïse va mourir, et en quelque sorte il anticipe sa mort en encourageant Israël à l'espérance. Dieu suscitera un prophète comme moi, dont vous écouterez la voix, voilà, et qui transmettra bien sûr la parole de Dieu. Ça, c'est le premier élément, mais ce sont quelques manuscrits et pas nécessairement les plus assurés. Voilà, et puis le dernier élément, c'est au verset 45, oui, « De baiser tu ne m'as pas donné, elle, depuis que je suis entrée, n'a pas cessé de baiser longuement mes pieds. » Elle est rentrée après lui, hein. Ayant appris qu'il s'était étendu, enfin qu'il était allé manger chez un pharisien, elle est venue chez ce pharisien. Donc certains manuscrits, au lieu de « tu ne m'as pas donné de baiser », « elle, depuis que je suis entrée », comporte « elle, depuis qu'elle est entrée ». Voilà, on corrige légèrement la chose. Par exemple, si vous appréciez la traduction de Sœur Jeanne d'Arc, c'est le choix qu'elle va faire, s'appuyant d'ailleurs sur l'araméen, qui ne distingue pas, vous voyez, une forme féminine, vous voyez, où il est possible, grâce à l'araméen, si vous voulez, de traduire aussi bien au masculin, à la première personne, qu'au féminin, à la troisième personne. Je le dis, Luc n'est pas spécialement connu pour être un sémite, c'est plutôt un grec, voilà. Hein, alors, qui s'est intelligent, à mon avis, qui a suffisamment... Enfin, un grec intelligent, qui a quand même essayé de, en particulier... s'intéresser à la langue d'origine, hein, de Jésus et du peuple d'Israël. Par exemple, on n'hésite pas à dire que les deux premiers chapitres dans lesquels Jésus raconte l'enfance de Jésus a été écrit à la manière du style des Septante. Voilà, c'est écrit en grec, hein, l'évangile est écrit en grec, mais le grec que Luc utilise dans les deux premiers chapitres s'inspire de celui de la Septante, c'est-à-dire d'une traduction juive, hein, de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque. Ensuite, à partir du chapitre 3, on retrouve le style de Luc, qui est un style beaucoup plus correct du point de vue du grec, voilà, hein, qui montre moins son origine. Voilà, alors quelques éléments de traduction. J'ai traduit, vous voyez, étant entré dans la maison du pharisien, verset 36, Jésus s'étendit plutôt que s'attabla. Quelquefois, on voit ça, hein. En réalité, il faut comprendre que le repas s'était allongé. Avec en particulier au centre les plats dans lesquels on se servait, ce qui facilite en quelque sorte la scène, ça veut dire que les pieds sont à l'extérieur. Voilà. Donc on peut imaginer assez volontiers cette femme qui vient par derrière, qui se tient à ses pieds, voilà, et qui pleure à ses pieds en les essuyant de ses cheveux et en les oignant, voilà, de parfum. On vous dit, la femme qui était dans la ville une pécheresse, apporte avec soin un vase albâtre. C'est pas simplement le verbe apporter, c'est une remarque d'ailleurs assez judicieuse de Sœur Jeanne d'Arc. Hein, il y a un soin dans l'apport qui est là pour souligner aussi la qualité, voyez, de ce qu'elle transporte. Hein, c'est un parfum dont on ne dit pas le prix, mais qui est sans doute précieux. J'ai traduit baiser longuement, Je crois que j'ai repris Jeanne d'Arc là encore, plutôt que embrasser. Là, c'est plutôt pour faire valoir le fait que, à un moment donné, hein, donc le verbe qui est utilisé, c'est kataphileo pour embrasser ou baiser longuement, tout simplement parce que un peu, quand Jésus enseigne Simon sur la situation, il parle d'un baiser philéma. Voilà, c'était pour faire entendre, vous voyez, l'écho entre deux baisers tu ne m'as pas donné, elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de baiser longuement mes pieds. Voilà, pour qu'on entende le rapport entre les deux. Enfin, j'ai gardé aussi la traduction de Sœur Jeanne d'Arc pour « Lui sont remis ses péchés, et il y en a beaucoup », plutôt que « Ses péchés nombreux lui sont remis », précisément pour qu'on entende à nouveau la répétition entre « Ses péchés sont beaucoup » et « Elle a aimé beaucoup ». Paulus s'est utilisé en adjectif d'un côté et en adverbe de l'autre côté. Voilà. Et puis, de manière générale, j'ai plus volontiers traduit les aoristes en passé composé, ce qui facilitait la lecture plutôt qu'en passé simple, ce qui est normalement ce qu'on fait quand on traduit un aoriste, qui est une action ponctuelle. Alors, la composition du texte, elle est assez simple. Hein, vous voyez, il y a en gros 1, 2, 3, 4 parties. Jésus attablé chez un pharisien et cette femme qui survient et lui prodigue des gestes d'amour avec la réaction de Simon qui lui est attaché. Ensuite, cette parabole que Jésus dit à l'intention de Simon. Ensuite, l'application à la situation. Et enfin, une double conclusion, vous voyez. Les convives réagissent. Qui est-il? Celui-là qui même les péchés remet. Et puis, une autre conclusion. Ta foi t'a sauvé. Le terme de foi n'avait pas été utilisé juste avant. Donc on s'interrogera là-dessus. Bon, ce texte, vous le savez, présente une difficulté majeure. C'est le verset 47. Le verset 47 se lit ainsi. À cause de cela, je te dis, lui sont remis ses péchés, il y en a beaucoup parce elle a aimé beaucoup. Mais à qui on remet peu, il aime peu. Voilà, vous avez deux séquences. Hein, l'amour qui est en quelque sorte l'origine, la cause du pardon. Lui sont remis ses péchés parce qu'elle a aimé beaucoup. Voilà, l'amour est la source du pardon. Et puis, à l'inverse, à qui on remet peu, il aime peu. Le pardon qui est la cause de l'amour. Voilà. La parabole va d'ailleurs dans le sens de cette deuxième affirmation qui lui correspond bien. À qui on remet peu, il aime peu. La parabole insistait là-dessus, hein, puisque Jésus posait comme question. Qui d'entre ceux qui ont été graciés aimera davantage le créancier? Voilà. Hein, donc l'amour est une conséquence précisément de la grâce reçue. Voilà. Donc beaucoup, c'est une difficulté qui se présente dans le texte et de manière générale, les commentaires que vous pouvez lire à ce sujet essayent volontiers de l'éliminer. Voilà. En disant par exemple qu'il s'agit là de sans doute d'un. Comment dire, que Saint-Luc a travaillé à partir de pièces distinctes, qu'il a jointes, mais sans complètement réaliser, vous voyez, cette jointure entre les pièces. Voilà. On est dans l'histoire de la rédaction de l'Évangile et la manière dont Saint-Luc, par exemple, a pu précisément prendre différents matériaux pour composer son récit. Alors, du coup, qu'est-ce que ça va donner? On va essayer de trouver des solutions accommodantes. Hein, par exemple, parce qu'elle a aimé beaucoup. On le rattache plutôt à je te le dis. Hein, à cause de cela, je te le dis, lui sont remis ses péchés, il y en a beaucoup, parce qu'elle a aimé beaucoup. Autrement dit, vous voyez, en rattachant le oti parce que à je te dis, on ferait davantage, on arriverait à retrouver le sens général, qui est d'ailleurs un sens premier dans la Bible, hein, de l'amour comme signe précisément d'un pardon, autrement dit comme conséquence d'un pardon. Donc ça, c'est une première chose. Et une autre solution que j'ai trouvée aussi assez marrante dans un commentaire, mais qui n'est pas unique, hein, c'est qu'en réalité, Jésus aurait déjà rencontré cette femme, l'aurait déjà pardonné. Et donc, du coup, voilà, comme elle était déjà pardonnée, ce qu'elle manifeste, c'est précisément un amour, une reconnaissance à l'égard de Jésus. Ses larmes sont plus des larmes de joie que de repentir. Bon, tout ça, voilà, on n'a aucune trace, bien sûr, de cette précédente rencontre entre Jésus et la femme, et donc on va essayer de réfléchir à cette difficulté, à la difficulté de ce verset. Voilà. Il y a une autre difficulté qui est présente au verset 50. Oui, c'est ta foi t'a sauvé, mais mais je vous l'ai dit d'une certaine manière, c'est qu'on a du mal à rattacher ça au contexte. Voilà, on a du mal à rattacher ça au contexte. Le texte insiste sur l'identité de Jésus, le texte insiste sur la remise des péchés. La question de la foi vient à la fin, un peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Donc on va essayer de voir ça aussi. Alors je vous fais un petit commentaire, donc partie par partie, les versets, et je commence bien sûr par les versets 36 à 39, hein, donc les quatre premiers versets. Jésus est accueilli chez un pharisien. Le texte est critique à son égard, moins que quand même dans l'histoire de la femme adultère. Vous vous souvenez, hein, vous étiez là comme un bloc assez menaçant. Je rappelle l'intervention d'ailleurs de Philippe à cet égard, hein, sur les pharisiens, valorisant leur souci de justice, d'observance de la loi de Dieu. Tandis que les évangiles semblent, comment dire, s'en servir des pharisiens comme de repoussoir, c'est-à-dire, vous voyez, comme une image de l'hypocrisie. C'est une vraie question qui interroge les chrétiens, avec le danger de moins voir des attitudes, spirituelles en particulier, qu'un groupe dont Jésus a sans doute été assez proche, mais qui finalement, pour l'essentiel, s'est opposé à lui. Notons tout de même, à la différence des autres évangiles, que saint Luc est moins critique, si l'on devait établir une légère, introduire une légère nuance, voyez, dans la présentation des pharisiens. Saint Luc est moins critique à l'égard des pharisiens que les autres. Par exemple, Jésus est invité. C'est le seul à mentionner que Jésus est invité à manger chez les pharisiens. Il le mentionne trois fois. Ici, au chapitre 11, versets 37 à 54, au chapitre 14, versets 1 à 6. Et puis, de la même manière, on voit chez saint Luc les pharisiens intervenir auprès de Jésus pour le prévenir du danger que représente Hérode. Hérode veut te tuer. Voilà. Donc, ils préviennent Jésus d'Hérode, ce qui manifeste un certain sentiment positif à son égard. En tout cas, que Jésus réponde à l'invitation du pharisien montre bien qu'il est sans exclusive. La question pour lui n'est pas le groupe auquel on appartient. Mais si on se reconnaît pécheur, vous connaissez cette phrase que l'on trouve aussi chez saint Luc, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. » Alors, les premiers versets insistent sur la femme. Elle est présentée immédiatement comme pécheresse, ce qui, en quelque sorte, vous voyez, conditionne, quand vous lisez la Bible, il faut vraiment la lire, vous voyez, pas à pas, hein, en intégrant chaque donnée qui nous est proposée, enfin qui nous est faite. Ici, on nous dit que c'est une pécheresse, et d'une certaine manière, ça peut conditionner, vous voyez, le regard que l'on a sur elle, et en particulier sur les gestes qu'elle pose. Des gestes qui sont vraiment choquants à faire en public. Hein. Je ne parle pas simplement des cheveux dénoués, mais du baiser sur les pieds. Des gestes qu'on peut faire en intime, mais en public, surtout dans le cadre de la maison d'un notable. Et en particulier quand on est, bien sûr, pécheresse. Et qui, d'une certaine manière, vous voyez, cette petite indication, on a l'impression que le fait de nous indiquer tout de suite que cette femme qui était dans la vie une pécheresse oriente notre regard dans le sens, finalement, du jugement que Simon va porter sur elle. Voilà. En tout cas, nous rapproche, vous voyez, de la position que Simon a, ou en tout cas valorise ou légitime, hein, que Simon s'interroge. Face à l'inaction de Jésus. Hein. Parce que c'est quelque chose d'ailleurs assez étonnant. Si Simon réagit, c'est en particulier pour souligner que Jésus, lui, ne réagit pas et qu'il se laisse faire. Dans les gestes que la femme fait, qui sont assez bien notés, qui durent, hein, le temps des verbes, en particulier les trois derniers, à savoir essuyer, baiser longuement, oindre, c'est des verbes à l'imparfait, ça veut dire un temps qui dure. Autrement dit, c'est une scène sur laquelle il faut quasiment s'arrêter, quand on contemple un évangile, en quelque sorte. Dans ces verbes, vous avez le verbe « oindre » à « phailo », qui est un petit peu étonnant. Voilà. Hein, « oindre », normalement, la l'onction se fait normalement sur la tête. Hein. C'est là qu'on verse de l'huile sur la tête. Ça rappelle l'onction à Béthanie, qui est absente de l'évangile de Luc. Présente dans les trois autres, Matthieu, Marc et Jean, et qui la place, bien sûr, cette onction de Béthanie à un tout autre endroit, c'est-à-dire juste avant la Passion, ou comme départ, introduction à la Passion. Et c'est même ainsi que Jésus en explicite le sens, ou en tout cas déploie l'intention, peut-être pas complètement consciente de cette femme, hein, c'est pour mon ensevelissement qu'elle a fait cela. Voilà. Ici, il n'est pas question de la passion, hein, mais plutôt du pardon des péchés. Voilà. L'onction sur les pieds, Vous l'avez dans Saint Jean tout de même, hein. L'onction sur la tête, elle est précisée chez Matthieu et chez Marc, mais Saint Jean parle d'une onction sur les pieds. Voilà. Je ne sais pas si c'est très fréquent, cette onction sur les pieds, en tout cas ça étonne, on reviendra là-dessus. Alors, donc la réaction de Simon, hein, qui suit immédiatement, ce que voyant, le pharisien se dit en lui-même, vous voyez, c'est une réaction intérieure, non exprimée au dehors, qui met en évidence, comme je l'ai souligné, le fait que Jésus ne réagit pas, hein, en tout cas n'a pas la réaction que Simon attendrait en particulier d'un prophète, il s'est laissé faire, et met en question bien sûr sa qualité de prophète. En même temps, une question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on a besoin d'être prophète pour savoir que cette femme est pécheresse ? Voilà. Ensuite, j'en viens à la parabole, avec une introduction un peu solennelle. Peut-être que ça fait un peu réfléchir. Hein. J'ai quelque chose, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Par le maître, vous ne trouvez pas très souvent ça dans l'Évangile. Avec un raccord aussi, pour répondre. Voilà. Hein. Quel est le verbe ? Je ne sais plus. Bon, peu importe. Comme si... Enfin, qui exprime... qui rappelle implicitement que Jésus connaît les pensées du cœur. Vous avez un passage un peu plus haut dans l'Évangile, au chapitre 5, versets 17 à 26, hein, où il est question précisément du pardon des péchés, enfin de la capacité qu'a Jésus de remettre les péchés. C'est ce fameux épisode du paralytique de Capharnaüm, porté par quatre hommes. La foi, d'ailleurs, y est présente. Hein. Voyant leur foi, il dit au paralytique, « Homme, tes péchés te sont remis. » Voilà, un peu comme ici. Hein. Et aussitôt que Jésus a dit ça, il y a des scribes dans l'Assemblée qui se disent « Qui est celui-là ? » Vous avez retrouvé un peu la même question. Hein. « Qui est celui-là ?» que l'Assemblée dira un peu plus loin. « Mais qui est celui-là pour parler ainsi, pour remettre les péchés ? » Il blasphème. Hein. « Seul Dieu peut remettre les péchés. » Jésus, connaissant les pensées dans leur cœur, ses pensées, aussitôt intervient en disant « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ?» Donc, on est beaucoup plus critique au chapitre 5. Enfin, Jésus est beaucoup plus critique, immédiatement réactif, affirmant son autorité, ou faisant, si vous voulez, de la guérison de la paralysie, un signe de son autorité. Une autorité, circonstanciée, ou en tout cas, délimitée, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre, voilà, laissons Dieu au ciel, bien évidemment, hein, sur terre, le pouvoir de pardonner les péchés. Voilà, ici, pas du tout, il n'y a pas cela. Même si Jésus, implicitement, vous voyez, connaît la pensée du cœur pour répondre à Simon, on parle davantage en parabole. Il est vrai que Jésus n'a pas exprimé une phrase choquante, si vous voulez, d'un point de vue du pharisien. Il a plutôt eu un comportement qui l'étonnait. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole ? Une parabole, on a déjà vu ça, donc je ne vais pas répéter tout ce qu'on a pu dire. Mais en tout cas, c'est une manière d'associer son interlocuteur au jugement. Voilà. Ou à la solution, si vous préférez. Jugement d'ailleurs que Simon porte bien, puisque Jésus soulignera. Tu as répondu, c'est le verbe « krino ». J'ai laissé répondu pour qu'on entende le rapport avec pour répondre. Hein. Ici, c'est crino, juger, et pour répondre, le verbe répondre, c'est apokrinomai. Donc, vous entendez la même racine. Voilà. Donc, tu as bien jugé. Donc, Jésus, Simon juge bien. Est-ce de la part de Jésus un peu ironique ? Est-ce qu'on pouvait juger autrement la parabole qui est assez évidente ? Simon, qui est sans doute averti des enjeux de la parabole, répond avec prudence, je suppose. Les enjeux d'une parabole, vous savez, c'est quand on juge, de se juger soi-même. Et de découvrir ensuite, quand la parabole est déployée, enfin explicitée, effectivement, qu'on sait juger soi-même. Voilà. La parabole elle-même est étonnante. Qu'est-ce que c'est que ce créancier qui, parce qu'on n'a pas, on ne peut pas lui rendre, remet les dettes ? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand même, ça nous interroge sur les créanciers, c'est qu'il est à ce point indifférent sa propre fortune pour que... Hein, comment ?
La SNCF.
La SNCF, peut-être. Mais davantage, on pourrait se demander, est-ce bien juste ? Voilà, est-ce bien juste ? Hein, quand vous devez 500, quand vous devez 50, d'être situé finalement au même niveau, hein, du point de vue de la grâce qui est faite. Mais ceci, je le dis... pour attirer votre attention sur le vocabulaire que Saint-Luc emploie, qui n'est pas une question de justice, mais qui est une question de grâce, Hein, c'est le verbe charizo, mai, qui est utilisé. Hein, comme il n'avait pas de quoi rendre, à tous deux, il fit grâce. Voilà. Et la réponse de Simon, vous retrouvez ce verbe, celui qui fit grâce de plus. C'est un vocabulaire qui est assez caractéristique de Saint-Luc. Hein. Vous avez en particulier, vous pensez à l'épisode de l'Annonciation, c'est la première fois qu'un verbe de même racine est utilisé, carito, hein, quand l'ange salue Marie en disant « Je te salue pleine de grâce hein, », kekaritomine. Voilà. Vous avez bien sûr le terme « grâce » qui revient de manière à de très nombreuses reprises, « caris ». Et même dans ce texte ici, vous avez un adverbe, « carine hein, », que j'ai traduit « à cause de cela » au verset 47, je te le dis, il faudrait traduire presque littéralement « grâce à cela, je te dis, lui sont remis ses péchés, et il y en a beaucoup, parce qu'elle a aimé beaucoup ». Voilà. C'est un vocabulaire qui est vraiment caractéristique de Saint-Luc, et de sorte que, vous voyez, la réaction n'est pas tant la reconnaissance à l'égard d'une remise de dette, hein, quand un créancier vous remet vos dettes, ben vous êtes reconnaissant à son égard, mais vous voyez, une réaction qui est à la hauteur de la grâce, et précisément Jésus parle en tant que, enfin, utilise le verbe aimer. Qui d'entre eux l'aimera plus ? Voilà. On n'est pas dans l'ordre simplement d'un contrat. Voilà. On entre davantage dans l'essence de la relation. Voilà. Le sens de la parabole est au vide, je vous l'ai dit. Beaucoup, celui qui est beaucoup pardonné, il aimera beaucoup. L'amour est une conséquence de la grâce. Hein, voilà. Alors, si on applique à la situation réelle, voici ce que ça donne. Donc, c'est les versets 44 à 48. « Tu as bien jugé, répond Jésus à Simon. Maintenant, il faut appliquer. » On a vu le regard de Simon. Il voyait donc la femme, il voyait Jésus et la femme. Voici maintenant le regard de Jésus dans lequel il entraîne Simon. Regarde cette femme. Voilà. Il y a certes une comparaison dans ce regard entre la femme et Simon qui tourne à l'avantage quasiment exclusif de la femme. Tout de même, il faut remarquer ceci. Jésus donc indique la femme. Il ne parle pas d'une pécheresse. Il dit ceci. Tu vois cette femme. On parle des péchés, mais on ne reprend pas le terme de pécheresse. Il regarde ce qu'elle fait, plus que ce qu'elle est, ou est considérée comme telle. Je vous rappelle la phrase de Simon. Si cet homme, s'il était prophète, saurait qui est, de quelle sorte, de quel groupe, de quelle nature, voyez, est cette femme qui le touche. Voilà, il regarde les faits, hein, ses actions. Si Jésus ne regarde pas la femme comme une pécheresse, la comparaison n'est pas nécessairement une manière, je dirais, entre la femme et Simon, une manière de critiquer Simon, tout simplement. Il ne regarde pas plus la femme que Simon comme un pécheur. Tout de même, il faut noter un léger déplacement, voilà, dans la manière dont Jésus regarde les gestes de la femme ou rapporte les gestes de la femme. Bon, il y a bien sûr l'eau sur le pied. Ensuite, on parle d'un baiser que Simon aurait pu lui donner, ne lui a pas donné, voilà, par rapport au baiser sur les pieds. Et puis ensuite, on parle de l'huile sur la tête. L'huile, ma tête, tu n'as pas oint. Voilà. Elle, de parfum, oint mes pieds. Qu'est-ce que je veux dire à travers ce léger déplacement que je remarque ? C'est qu'on a l'impression, si vous voulez, que Jésus est en quelque sorte en train, à partir de ce que fait la femme, de dévoiler... Vous voyez, quelle est son identité réelle ? Voilà, hein, qui est la question qui est posée. Si cet homme était prophète et qu'il sera reprise par l'Assemblée, qui est celui-là, hein, qui peut remettre les péchés ? Qui est oint sur la tête ? Voilà. Oindre sur la tête, c'est la manière dont on qualifie les messies. Le messie. Les messies. Autrement dit, les gestes que l'on prodigue à quelqu'un. Ce qu'on pourrait ajouter, simplement ceci, c'est que les gestes qu'on prodigue à quelqu'un expriment l'estime que l'on a de lui. Et s'il y a une critique à l'égard de Simon, c'est peut-être là, car il a sans doute entendu que Jésus était prophète, puisqu'il l'a repris lui-même, mais il ne l'a peut-être pas accueilli ainsi. Donc j'en viens au verset 47, donc le verset compliqué dont je vous ai parlé. Oui, dans la foulée de la parabole, on peut maintenir, bien sûr, la leçon. L'amour est la conséquence, le fruit du pardon. C'est un enseignement constant de la Bible. Autrement dit, si je me replace dans la première scène, si Jésus n'a pas réagi au geste de la femme, c'est qu'elle n'était plus pour lui déjà une pécheresse. L'amour comme conséquence, ou plutôt comme cause du pardon, est toujours possible. C'est affirmé dans l'Évangile que vouloir l'éliminer, c'est, voyez, d'une certaine manière, ne pas être fidèle à une règle exégétique. C'est qu'on préfère toujours la leçon la plus difficile à la leçon la plus facile. Voilà, qu'il faut toujours la maintenir. Et plutôt que de critiquer la formule, je nous inviterai à commencer par aimer, et puis ensuite on verra bien si le pardon vient. Je vous propose une troisième solution. C'est le fait que la femme n'attend pas d'être pardonnée pour se tenir devant Jésus comme une pécheresse graciée. Vous voyez, il y a une espèce d'anticipation. Que Jésus ait la capacité de pardonner le péché, comme je vous l'ai rappelé au chapitre 5, l'épisode du paralytique, Jésus l'a affirmé. Il a donné un signe précisément de cette autorité, la guérison du paralytique. Voilà. Et il y a une espèce de... Il peut y avoir quelque chose de très, très, très beau, très noble, et souligné par Jésus, le fait de ne pas attendre, comme je disais, le pardon pour se tenir devant Jésus comme quelqu'un de gracié et manifester précisément par les gestes que l'on lui prodigue, la reconnaissance que l'on a. Ce qui est d'ailleurs quelque chose qui est assez, il me semble, une attitude qui est assez présente dans les psaumes. On n'attend pas, par exemple, d'être délivré d'une épreuve pour commencer à louer Dieu. J'en viens à la double finale, l'identité de Jésus, une question fondamentale. Ici, il n'y a pas de critique. Comme dans l'épisode du paralytique, on s'interroge simplement qui est celui-là qui m'aime les péchés remet. On a l'impression qu'il y a comme une espèce d'évidence que le péché est remis. Sans doute parce que Jésus a déjà répondu à la question. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est précisément avec ce déplacement que Jésus a fait en rapportant les gestes de la femme à Simon, c'est de s'interroger sur le lien entre le Messie et le pardon des péchés. Et là, c'est un peu une question que je renvoie à Philippe, parce que dans le judaïsme, ça fait partie des attributions du Messie. Personnellement, en tout cas dans la Bible, je ne pense pas, mais je ne sais pas si dans la tradition juive, ça fait partie de ce lien est posé. Enfin, le dernier verset, « Ta foi t'a sauvé », est-ce une conclusion étrangère à l'ensemble du récit ? Une manière aussi, une autre solution, une manière de tisser comme une espèce de fil rouge à travers l'Évangile, parce que c'est pas la première fois, plutôt c'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière que Saint-Luc va utiliser cette formule, ta foi t'a sauvé. Il l'utilise 3-4 fois. Ici, c'est la première fois, je vous l'ai dit, au chapitre 8, verset 48, où il est question de cette femme qui a un flux de sang, vous savez, qui vient toucher Jésus, le manteau de Jésus, par derrière, et Jésus qui s'arrête en demandant qui m'a touché. Et quand la femme est venue et a expliqué tout ce qu'elle a fait, Jésus dit « Ta foi t'a sauvée ». Vous avez une parabole aussi, enfin une histoire qui est aussi propre à Luc, l'épisode des 10 lépreux qui viennent demander à Jésus d'être purifiés, Jésus qui les envoie se montrer aux prêtres, pendant qu'ils s'en vont, et ils sont tous purifiés, l'un d'entre eux prenant conscience de sa purification, revient en arrière vers Jésus pour rendre grâce de sa purification, et Jésus va clore ce passage en disant « Ta foi t'a sauvé ». Et enfin, le dernier point, dernier épisode, c'est juste avant l'arrivée à Jérusalem, c'est la dernière étape, c'est Jéricho, c'est l'aveugle de Jéricho qui est guéri par Jésus et auquel Jésus dit « Ta foi t'a sauvé ». Donc, autrement dit, vous voyez, vous avez comme une espèce de fil rouge voilà, que Luc inscrit dans son évangile, dont celui-ci serait le premier élément. À mon avis, cette phrase va bien... n'est pas étrangère au récit, car elle va bien dans le sens de cette troisième solution que je vous ai proposée, c'est-à-dire que la femme n'attend pas d'être pardonnée pour se tenir devant Jésus comme une femme graciée, une pécheresse graciée. Je pense en particulier au maître de Saint-Luc, qui a été Paul. Je ne sais pas si vous avez vu Paul apôtre, mais précisément, ce film met en rapport les deux, pour lequel ce ne sont pas les œuvres, ce que nous faisons, qui nous sauvent, autrement dit, ce que la femme a fait, mais la foi qui nous fait adopter le comportement, précisément, d'un être gracié, avant même que celle-ci, la grâce, nous ait rejoint. Voilà, je vais terminer ma présentation, mon commentaire du texte, et je vais laisser